France Inter.
France Inter. Dorothée Barba.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je voulais d'abord vous dire merci, vous ne décevez jamais. L'auditrice dont j'ai relayé l'appel hier et qui cherchait à donner le matériel de sa mère, couturière, morte récemment, a reçu de nombreux messages. Voici ce que nous écrit Laure. J'ai été très surprise et très touchée de recevoir des mails de nombreuses associations pour les tissus et autres belles bricoles collectées pendant des années par ma mère. Cet effort prendra vie ailleurs pour mon plus grand bonheur, poursuit-elle. Merci d'avoir relayé ma demande et merci de votre énergie positive dans ce moment difficile. Alors on continue avec cette énergie positive. Je m'intéresse aux Côtes d'Armor cette semaine puisque le jeu des 1000 euros est à la plage. À Erquy, on retrouve Nicolas Stoufflet pour le spécial jeune du mercredi dans un quart d'heure. Aujourd'hui, je donne la parole à une association qui aide des personnes malades à se serrer les coudes entre pairs. La maladie en question, nous en avons beaucoup parlé il y a quelques mois sur France Inter, suite au témoignage très fort de Nicolas Demorand, c'est la bipolarité. Cette association bretonne invite les personnes concernées à se parler dans des groupes de discussion, à participer à des activités communes, à se rassembler en somme. Parce que faire communauté, c'est une forme de soin. Soyez les bienvenus.
Carnet de campagne, le journal des solutions.
Bonjour Anne Cinca.
Bonjour Dorothée Barba.
Vous habitez à Trémuson, tout près de Saint-Brieuc, et vous êtes la fondatrice de cette association Bipolaire 22. Alors est-ce que vous avez créé l'association dont vous aviez besoin parce qu'elle n'existait pas ?
Exactement. C'est tout à fait ça. Et c'était surtout, moi, j'en ai eu besoin. Quand j'ai été diagnostiquée, j'habitais à Paris, il y en avait une, j'avais de la chance. Et puis quand je suis arrivée dans les Côtes d'Armor, il y en avait pas. Et donc j'ai décidé de prendre les devants entre guillemets. Et je me suis dit, puisque moi j'en ai eu besoin, d'autres en ont certainement besoin aussi. Donc c'est pour ça que j'ai créé Bipolaire 22.
Sans doute faut-il préciser à ceux et celles qui nous écoutent ce qu'est la bipolarité. Comment pourriez-vous définir cette maladie, Anne ?
Alors la bipolarité, moi je la présente comme une maladie des émotions. C'est-à-dire que une personne qui est atteinte de trouble bipolaire a des émotions qui sont très souvent, même quand elle va bien, plus importantes qu'une personne qui n'a pas de trouble bipolaire. Et de ce fait, il arrive que des personnes avec un trouble vivent des chutes, des rechutes, où les émotions sont décuplées, centuplées. Et dans ce cas-là, elles tombent soit en dépression, ou alors montent en hypomanie, en manie, c'est-à-dire une exaltation telle qu'on ne vit plus correctement notre vie, c'est-à-dire qu'on a du mal à aller travailler, on a du mal avec les relations interpersonnelles, on est en hypomanie, on est super heureux, enfin tout va bien, c'est absolument génial. Et puis il y a une angoisse permanente, des risques de suicide qui sont très présents. Donc c'est vraiment une maladie chronique très grave.
C'est ce qu'on appelait il y a quelques années la maniaco-dépression. Est-ce que vous confirmez que les malades ont besoin d'être entourés de personnes qui traversent les mêmes choses ?
Ah, complètement. C'est vraiment quelque chose qui me manque ici, c'est-à-dire que les personnes qui ont cette maladie sont très isolées en fait et se sentent tellement incompris qu'ils ont besoin finalement de se retrouver ensemble pour pouvoir être compris au premier mot. Et c'est finalement ce qu'on apporte, c'est-à-dire qu'en fait on leur apporte un lieu, un temps, un espace pendant lesquels ils peuvent se retrouver entre eux et se soutenir entre eux. C'est-à-dire que c'est pas nous qui allons les soutenir, mais c'est eux qui vont se soutenir entre eux.
Comment fonctionne votre association ? Que propose-t-elle concrètement ?
Alors concrètement, on travaille sur deux axes, c'est-à-dire qu'on va proposer d'abord pour les adhérents de l'association des activités qui sont très diverses. On va proposer des groupes de parole, on va proposer des balades, on va proposer des rendez-vous personnalisés, administratifs, d'outils, de ressources, de compréhension du traitement aussi, des ateliers autour de la nutrition, des ateliers bien-être, des cafés-rencontres, des permanences. Et puis le deuxième axe va se situer plutôt au niveau des organismes et des associations en santé mentale du département. Et donc là, on a décidé de travailler main dans la main avec ces organismes pour faire bouger les choses, pour lutter contre la stigmatisation, changer les regards et puis affirmer notre présence aussi, enfin notre présence de l'asso et des adhérents et des personnes atteintes de troubles bipolaires en général, et puis pour éveiller les consciences.
Quel est votre regard, Anne, sur le livre de Nicolas Demorand, publié il y a quelques mois? Nicolas Demorand, notre collègue de France Inter, qui souffre lui aussi de troubles bipolaires. Comment avez-vous perçu les très nombreuses réactions que ce bouquin a suscité?
Alors moi, quand je l'ai entendu dans les 80 secondes en direct, j'étais à la fois, j'avais envie de le remercier en fait, et de le prendre dans mes bras et de l'embrasser, lui dire mais merci quoi, merci pour ce que vous dites, merci pour le message d'espoir que vous donnez. Et à la fois, j'étais dans une colère monstre en fait, parce que j'ai du mal à entendre de quelqu'un qui a un trouble bipolaire de dire je suis un malade mental, et j'ai tellement peur que les autres personnes qui l'entendent se disent bah oui mais moi je suis un malade mental, mais en fait non. Tu vis avec une maladie mentale, mais tu n'es pas un malade mental. Et c'est un combat, moi, que je mène au quotidien, justement. Mais il a lancé ce message d'espoir qui dit on peut travailler, on peut vivre correctement, on peut avoir un poste à responsabilité. Et c'est vrai, et c'est tout à fait vrai, à condition de se donner les moyens et d'apprendre la maladie. Et tout ça, il l'a dit dans les entretiens qu'il a menés après. Et en ça, j'ai envie de le remercier. D'ailleurs, je lui ai écrit, j'ai pas reçu de réponse encore, mais je lui ai écrit en lui demandant de devenir parrain de notre association. Donc si jamais...
On lance un appel là, c'est peut-être le bon moment et le bon endroit.
Nous, ça nous ferait un plaisir immense. Voilà.
Alors, des activités bien-être, des groupes de parole, des randonnées, des promenades, vous proposez toutes sortes de choses hein, avec Bipolaire 22. Mmh. Également des rendez-vous de psycho-éducation. En quoi consiste-t-il?
Alors, ce n'est pas vraiment des rendez-vous de psycho-éducation comme on l'entend, c'est-à-dire qu'on délivre pour le moment pas un programme abouti, on travaille dessus. En revanche, ces rendez-vous qu'on dit à visée psycho-éducative, on va finalement en tête-à-tête. Voir avec la personne qu'on reçoit la problématique qui l'a amenée vers nous et voir avec elle les ressources qu'elle peut mobiliser chez elle de manière à les mettre en action pour pouvoir sortir de sa problématique. C'est-à-dire qu'on essaye de lui ouvrir les yeux, lui dire que tout n'est pas noir, tout n'est pas impossible, mais qu'en elle, elle a des ressources et qu'elle peut s'en sortir.
Est-ce que vous auriez un exemple à nous donner?
Alors, je vais vous en donner deux. Je vais vous donner un exemple léger, un exemple grave. L'exemple qu'on pourrait croire léger, mais qui ne l'est pas en fait, c'est une personne qui est venue nous voir et qui nous a dit « je n'arrive pas à faire ma vaisselle ». Bon, ça peut faire sourire, mais pour nous, c'est hyper important. Ça fait partie de notre hygiène de vie. Et nous, l'hygiène de vie, on est très touchés et on a du mal. Cette personne, en montant un suivi, on a dit, t'arrives pas à faire ta vaisselle, t'en as partout, ça déborde. D'accord. Aujourd'hui, tu vas sortir de ta vaisselle sale, tu vas sortir une assiette, une fourchette, un couteau, une casserole. Et ça, tu me garantis ou tu essayes de faire en sorte que ces ustensiles-là soient propres à chaque repas. Voilà, le reste on verra après. Et on a commencé comme ça. Puis elle a commencé avec une fourchette, et puis une fourchette, puis un couteau, et puis une fourchette, puis un couteau, puis une assiette. Et c'est venu comme ça. Et au fur et à mesure, maintenant sa vaisselle est faite, et sa vaisselle est faite tous les jours et systématiquement après les repas. Donc voilà. Et l'exemple plus lourd, c'est une personne qui est venue nous voir en disant moi je suis hyper anxieuse, et elle était tellement anxieuse qu'elle bougeait tout le temps, elle remuait, elle pleurait tout le temps, elle pouvait plus sortir. Enfin c'était vraiment une anxiété très 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 forte, très développée, et qui l'handicapait énormément. Et on lui a dit voilà, j'ai besoin qu'on m'aide à réduire cette anxiété, les anxiolytiques ne fonctionnent pas. Et on a vu ensemble, on a mis en place ensemble des choses qu'elle pouvait éventuellement faire sur la gestion de l'anxiété, comme des outils de respiration, des sorties en forêt qu'elle a fait d'abord avec nous, puis ensuite qu'elle a fait toute seule. Après ça a été des choses, mais voilà, elle n'avait pas d'animaux, mais elle allait voir sa voisine, proposer de caresser son chat, enfin vous voyez, des choses comme ça. Et puis l'anxiété n'a pas disparu, mais elle s'est largement diminuée grâce à ce suivi, et je pense aussi grâce au sentiment que elle n'était plus isolée finalement, qu'elle se sentait aidée, qu'elle se sentait comprise et importante pour quelqu'un.
Évidemment, votre association ne remplace pas le soin. Il n'y a pas de soignant dans votre association, mais c'est vraiment une manière d'être expert de sa maladie et de partager cette expertise avec les autres.
Alors, tout à fait. Alors, il y a une soignante, c'est une pharmacienne qui s'occupe de l'éducation thérapeutique du patient pour la compréhension du traitement. Donc ça, on était obligé de la faire par une pharmacienne. En revanche, elle n'intervient pas dans les autres activités. Voilà, elle ne propose que ça. Et j'ai oublié votre question.
L'expertise de la maladie, c'est aussi ça la fonction de l'association.
Oui, c'est ça, c'est ça. C'est-à-dire qu'à travers toutes nos activités et tout ce qu'on transmet et tout ce qu'on apporte et tout ce qu'on demande d'échanger, tout ça, finalement, on offre finalement la possibilité à nos adhérents de connaître la maladie, parce qu'il n'y a pas de secret. Il faut connaître la maladie pour pouvoir éviter les rechutes, hein, les prévenir. En revanche, jamais on ne se substituera aux soins, jamais on ne se substituera aux médicaments. C'est un triptyque, c'est médicaments, psychothérapie, psychiatre et association, c'est-à-dire entraide. Voilà, on ne peut pas faire autrement avec l'hygiène de vie, on ne peut pas faire autrement qu'avoir un soin dans cette maladie.
Votre association a-t-elle besoin de plus d'adhérents, adhérentes et de dons éventuellement ?
Alors oui, nous on a des besoins en moyens financiers forcément pour pouvoir financer nos futurs projets, donc de psychoéducation, on en a parlé, on aimerait monter un programme d'art thérapie aussi, on aimerait former nos bénévoles de manière plus officielle, et puis on aimerait aussi avoir, alors toutes les adhésions sont ouvertes à tous et pas seulement aux personnes atteintes de troubles bipolaires, mais seulement les personnes souffrant de troubles peuvent participer aux activités. Ce qui veut dire qu'on aimerait avoir de plus en plus d'adhérents de manière à un jour être reconnus d'utilité publique et avoir des subventions qui pourraient décoller. Et en même temps, on aurait besoin aussi de bonne volonté, c'est-à-dire de bénévoles dans plusieurs secteurs du département, comme Bégard, Saint-Brieuc, Lamballe, Dinan ou Rostrenin. Et puis, des soignants qui pourraient nous aider et intervenir dans le programme pour la construction du programme de psychoéducation, parce qu'on ne veut pas faire ça seul, hein, on veut faire ça en collaboration avec des soignants. Et puis des locaux, gratuitement, de préférence, sur les régions que j'ai citées, qui pourraient accueillir des groupes de 8-10 personnes. Voilà. On a pas mal de besoins. Ouais.
Merci beaucoup Anne Cinca, présidente fondatrice de l'association Bipolaire 22. Bonne journée.
Merci, bonne journée. Au revoir.
Et j'ouvre la boîte mail des carnets de campagne. Vous nous signalez des initiatives dans les Côtes d'Armor, département rebaptisé les Côtes d'Armoir par Ninon, très jeune auditrice dont la mère m'a écrit. J'aime beaucoup les Côtes d'Armoir. Des initiatives donc. Voici d'abord le message de Claire qui nous présente un lieu agroécologique et pédagogique situé à Plouane, près de Dinan, à la croisée d'une pépinière, d'un espace de sensibilisation à la biodiversité et d'un projet citoyen. Ce lieu est né d'une question simple, écrit cette auditrice. Comment créer chez soi, dans l'intimité d'un jardin, un espace réellement accueillant pour la vie sauvage, même sans connaissance botanique? La réponse que je propose est concrète. Planter des haies, mais pas n'importe lesquelles, des haies locales, mellifères, structurantes, favorables à la faune sauvage, des haies qui connectent les jardins aux champs, les gens à leur territoire et les enfants aux vivants. C'est une porte d'entrée vers plus de sauvages, poursuit Claire. Le Marais Fertile, c'est donc une pépinière de haies écologiques qui sont vendues en kit, clé en main, une prairie en zone humide pensée pour changer le regard sur le jardin et pour montrer la beauté du sauvage avec des accueils de scolaires, des ateliers famille et des formations adultes, un refuge de biodiversité dans une zone humide et une démarche qui est ancrée localement qui veut inspirer les citoyens comme les collectivités. En France, poursuit cette auditrice, les jardins privés couvrent environ 1,2 million d'hectares, soit 4 fois plus que les réserves naturelles. Ils représentent un potentiel immense pour accueillir le vivant. Il est donc urgent d'accompagner les citoyens et les citoyennes à faire évoluer ces espaces vers plus de biodiversité. Et c'est ce que j'essaye de faire à mon échelle avec le Marais Fertile. Ce lieu, conclut-elle, a besoin d'un coup de pouce pour continuer à exister et à transmettre. Le Marais Fertile, c'est à Plouane, dans les Côtes d'Armor. Et puis nous restons au jardin avec le message de Marc, autre auditeur, qui signale une association de promotion de la faux. Association qui œuvre dans les Côtes d'Armor, le Finistère et le Morbihan. La faux, écrit-il, est un outil vertueux et très efficace au jardin. Un outil respectueux de l'environnement, silencieux, sans consommation de carburant et qui permet de pratiquer des fauches différenciées. Son maniement est simple et très agréable, moyennant une petite initiation que propose justement cette association, qui s'appelle « Autour de la faux ». Personnellement, poursuit cet auditeur, depuis 3 ans, j'ai abandonné la tondeuse et la débroussailleuse pour entretenir un jardin de 7000 m² avec un grand plaisir. Je ne suis pas adhérent de l'association, mais elle m'a permis de me perfectionner dans ce domaine. « Autour de la faux », vous trouverez un lien vers leur site internet à la page de l'émission pour participer à ces formations. Et que voulais-je vous dire? Oui, sachez que le département du Finistère sera au programme la semaine prochaine. On restera en Bretagne. Ensuite, je m'intéresserai à l'Ain et au Jura. N'hésitez pas à nous écrire sur le site de l'émission si vous avez des initiatives positives ou des gens géniaux à signaler dans les départements 29, 01 et 39. Finistère, 1, Jura.